Bon, ça, c'était l'impact direct sur la santé. Il faut aussi savoir, vu qu'on parlait de dépendance, que le tabac entraîne une accoutumance. Donc, plus on en consomme et plus on en ressent le besoin, au point, pour certains, d'altérer leur perception des choses. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ce qu'on appelle une labilité de l'humeur. À un moment, ils vont être gentils, puis brusquement, ils vont avoir des accès d'agressivité ou de mauvais comportement. Ou quand ils commencent leur journée, on peut pas leur parler s'ils n'ont pas pris leur cigarette, sinon ils seraient capables de se battre ou de les insulter. Ceci, cette altération de l'esprit par un produit de consommation, c'est ce qu'on appelle al-muskir. Donc c'est une chose enivrante. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu muskir khamr wa kullu khamrin haram ». Tout ce qui va altérer la conscience d'une personne, c'est du khamr, c'est-à-dire c'est une substance enivrante. Et tout type de substance enivrante est interdit en islam, que ce soit l'alcool, évidemment, ou le tabac, ou encore une fois, certaines drogues telles que le cannabis et les amphétamines qui altèrent davantage encore la conscience des personnes. Donc on a déjà deux arguments pour promouvoir l'interdiction de la consommation du tabac. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ceux qui consomment le tabac vont avoir aussi un impact sur leur propre pratique de la religion. Très souvent, ce sont des personnes qui vivent isolées, qui refusent de se mêler dans les exercices de savoir ou de bonnes pratiques, qui vont être fatigués, qui n'auront pas beaucoup d'énergie pour pratiquer de bonnes œuvres. On a même rapporté il y a quelques jours un frère dont un membre de sa famille ne supporte pas une ambiance saine. Il a besoin d'être dans une pièce qui est enfumée par du tabac pour se sentir à l'aise. Donc c'est vraiment des personnes qui vont vivre dans des environnements malsains et qui n'auront pas la force ni le courage d'avancer dans leur pratique religieuse. Et donc là encore, ces personnes-là, ces fumeurs et ces fumeuses, il ne faut pas oublier malheureusement que le tabac touche aussi des femmes musulmanes et non pas que des hommes musulmans. Et donc encore là, on a le troisième point, l'impact sur la santé, l'impact sur la dépendance, l'accoutumance, et puis l'impact sur la propre pratique de la religion. Pour l'instant, on a parlé de l'effet nocif de l'intéressé, c'est-à-dire de celui qui fume. Mais l'un des problèmes du tabac, c'est qu'il touche également son entourage. Il ne faut pas oublier que, et ça c'est une donnée officielle, que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, pour ceux qui connaissent les morts subites de l'enfant, que le tabac est responsable de 3 fois plus de cas de morts subites chez l'enfant. Donc c'est quoi une mort subite? C'est l'enfant, on le couche le soir, et le lendemain, il ne se réveille pas. Et au terme de plusieurs essais de recherche médicale, il a été prouvé que les familles où il y avait ce qu'on appelle le tabagisme passif, c'est-à-dire des familles où une personne ou plusieurs fument, ces enfants-là étaient plus sujets à ces morts subites. Si cet enfant survit, il faut savoir que le tabac est aussi la première cause de développement des allergies chez l'enfant. On voit beaucoup d'enfants qui développent ce qu'on appelle des bronchiolites, des asthmes ou des bronchites, encore une fois, chez des familles de fumeurs. Donc ces personnes-là, en plus de se nuire à elles-mêmes, elles nuisent également à leur entourage, et notamment à leur entourage proche. Et il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, « Man aza musliman faqad azani, wa man azani faqad aballah. » Celui qui va nuire à un musulman m'aura nui directement, et celui qui me nuira aura nui à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces personnes aussi craignent Allah subhanahu wa ta'ala auprès de leurs membres, de leur famille, auprès desquels ils ont une responsabilité. Et ils ne doivent pas causer leur perte, pas plus que leur propre perte. Il faut savoir également que, là on a parlé de l'entourage proche, mais ces désagréments, on le constate tous les jours à la mosquée. Il y a des musulmans ou des musulmanes qui viennent à la mosquée et dont les vêtements empestent le tabac. Ils gênent tous les prieurs qui sont sur la même rangée. Alors cette personne, malheureusement, ne se rend pas compte, tellement elle est habituée à cette puanteur. Mais, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il n'était pas autorisé à une personne qui avait une mauvaise odeur sur elle de se rendre à la mosquée. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallam nous apprend que celui qui a la laine ou la mauvaise odeur de l'ail ou de l'oignon, il ne doit pas se rendre à la mosquée. Il a dit, dans le sens de ses propos, qu'il doit rester chez lui. Et dans un autre hadith, le prophète sallam a même dit qu'il était préférable pour lui d'aller au Baqiya. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Al-Baqiya, c'est le nom du cimetière à Médine. Et comme expliquent certains savants, comme Cheikh Al-Albani, rahmoullah, qu'en effet, il est préférable pour lui d'aller au cimetière, au moins il ne gênera personne. Donc, encore une fois, ces personnes-là, en plus de nuire à leur propre personne, elles nuisent à leur entourage proche, mais également à toutes les personnes qu'elles vont rencontrer tout au long de leur journée, et notamment dans des lieux d'adoration, comme les mosquées. Ensuite, là, on a parlé des choses, on va dire, les plus importantes, mais on n'en a pas fini encore. Tous les fumeurs, sans exception, ressentent des désagréments tous les jours. Ils ont des douleurs au niveau du ventre, souvent ils sont ballonnés. Ils vont avoir ce qu'on appelle des aigreurs, des remontées acides. Et puis certains autres vont avoir des dents colorées, en jaune, une mauvaise haleine. Tous ces désagréments, ils en sont conscients. La question qu'on peut se poser, c'est mais alors qu'est-ce qui les pousse autant à fumer ? Ces personnes qui mettent en danger leur santé, la santé de leurs proches, et qui vivent jour après jour avec ces désagréments. Et puis, pour finir, ces personnes, donc ces fumeurs malheureusement, utilisent de grosses sommes d'argent pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Il faut savoir qu'un paquet de cigarettes, ça coûte entre 5 et 10 euros. Ceux qui en consomment 1 à 2 par jour, ils en ont pour près de 300 euros par mois. Il y a un frère anglais qui a fait une expérience après avoir décidé d'arrêter de fumer. Il a économisé chaque jour tout l'argent qu'il avait l'habitude d'utiliser pour acheter du tabac. Il a économisé 3600 euros à la fin de l'année. Et avec cet argent, il a fait le hajj, alhamdoulilah. Donc c'est des sommes énormes et il faut vraiment prêter attention à ces désagréments. Et le prophète sallam a, d'après le texte, il est rapporté sur le fait de gaspiller l'argent. Alors on sait qu'il est interdit de gaspiller son argent dans des choses licites. Que dire alors de gaspiller dans des choses illicites? Donc c'est aggraver une chose qui à la base est déjà muharrama. Alors là je vais citer une parole de Cheikh Ibn Baz dans une risala qui s'appelait Hukm Sharb al-Dukhan, le statut du fait de consommer du tabac. Il dit, on sait qu'une chose, une substance, lorsqu'elle porte atteinte à la santé, elle mérite d'être interdite. Que lorsqu'une chose, elle va porter atteinte à notre esprit ou à notre raison, elle mérite d'être interdite. Quand une chose va porter atteinte à ses proches ou à son entourage, elle mérite d'être interdite. Quand une chose va porter atteinte à notre argent, elle mérite d'être interdite. Il conclut alors, mais que dire d'une chose qui réunit ces quatre choses à la fois ? Et donc il n'y a aucun doute, encore une fois, que ce soit auprès de la communauté médicale ou des savants religieux, sur l'interdiction de la consommation du tabac. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la personne qui consomme du tabac est pécheur. Il commet des péchés jour après jour. Il les accumule. Alors s'il ne craint pas de mettre sa santé en danger, qu'il craigne au moins de mettre sa vie en danger, fil akhirah. Les péchés s'accumulent. Et comme disait le prophète sallam, les montagnes sont faites de petites pierres. Et on ne sait pas par quoi on entrera au paradis, mais on ne sait pas non plus par quoi on pourrait entrer en enfer. Pourquoi alors prendre le risque d'aller en enfer pour du tabac ?